à la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la voie du Béarn 95.10.
À la découverte du ciel, à la découverte de l'univers, les amis, bonjour, oui, c'est Alain. Aujourd'hui, pour notre émission d'astronomie, je vous propose de faire un petit voyage pour assister à l'événement qui a marqué l'été, qui a mobilisé beaucoup d'astronomes, professionnels ou pas, spécialistes de la couronne solaire ou pas. Je veux vous parler de l'éclipse totale de soleil du 21 août. Elle était visible seulement aux États-Unis. On y va après la page d'actualité. Et l'actualité, c'est bien sûr Cassini. Cassini, c'est fini. Ben oui. La sonde Cassini a été précipitée dans l'atmosphère de Saturne, où elle s'est désintégrée, vaporisée. C'était le 15 septembre. Cette fin a été programmée par les responsables de la mission à la NASA, parce que Cassini, qui a été lancé en 1997, ça fait 20 ans, qui est arrivé en 2004 près de Saturne, pendant 13 ans, elle a manœuvré pour survoler et Saturne, et ses anneaux, et ses satellites, Titan, Encelade, Dionée, et tous les autres. Cassini arrivait à court de carburant après toutes ces manœuvres, et la sonde allait devenir incontrôlable. Et elle risquait peut-être, avec une probabilité certes très faible, mais elle risquait peut-être de percuter un de ses satellites. Et Cassini n'avait pas été stérilisé comme les rovers et les sondes qu'on envoie sur Mars ou sur la Lune. Alors, elle risquait, en percutant un de ses satellites, de le contaminer avec des bactéries d'origine terrestre. Et on pense que sur certains de ces satellites, notamment sur Encelade, une forme de vie extraterrestre aurait pu se développer. Alors, les responsables de la NASA ont préféré l'envoyer finir sa vie dans l'atmosphère de Saturne. Mais les amis, le final a été grandiose. Eh oui. Cassini est passé 22 fois dans l'étroit espace de 7000 km qu'il y a entre Saturne et le plus près de ses anneaux. Elle a envoyé des prises de vue qui sont magnifiques, mais qui sont aussi d'un très grand intérêt scientifique. Le 15 septembre, elle est arrivée dans l'atmosphère de Saturne à 120 000 km/h. Et là, bien sûr, elle s'est échauffée, sa température est montée à 2000, 3000 degrés peut-être. Elle s'est vaporisée entièrement en quelques secondes. C'est la fin d'une exploration sans précédent qui aura permis de mieux comprendre et Saturne, et les anneaux, et les satellites. Enfin, la fin non, parce qu'il reste encore pas mal de travail pour les scientifiques qui sont chargés de dépouiller et d'interpréter la totalité des résultats qui sont fournis par ces 12 instruments. On estime qu'il y a au moins 20 ans de travail. En tout cas, les ingénieurs qui sont chargés de piloter Cassini depuis son départ, ceux-là, ils doivent avoir un sacré coup de blues maintenant que leur bébé, ou non, plutôt leur enfant après 20 ans, maintenant que leur enfant a disparu. Et puis dans l'actualité, il y a aussi Jupiter. Je vous rappelle qu'autour de Jupiter, il y a la sonde Juno qui tourne autour de Jupiter. Eh bien, pour Jupiter, figurez-vous qu'on a découvert deux petits satellites de plus. Des petits corps, tout petits, 1 km, 1,5 km. Au total, ça fait 69 satellites pour Jupiter. Et ces deux-là, ils n'ont pas encore de nom. Mais il se trouve qu'ils tournent en sens inverse de la planète, ce qui laisse à penser que ce seraient des objets qui passaient par là et qui ont été capturés par le champ gravitationnel de Jupiter. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Allez, maintenant on parle de l'éclipse du 21 août. Pour cette éclipse, la ligne de centralité traverse les États-Unis de part en part, coast to coast, ils disent. Depuis l'Oregon au nord-ouest jusqu'à la Caroline du Nord au sud-est. On parle de l'éclipse et aussi de son environnement touristique. Eh oui, parce que quand on va loin comme ça pour voir un phénomène qui se produit dans le ciel, on n'est pas à l'abri d'un problème météo. Ça m'est arrivé une fois du côté de Shanghai en Chine. Alors là, couverture nuageuse épaisse, brouillard, totalement opaque. On a vu le soleil ni avant, ni pendant, ni après l'éclipse. C'était en 2009. Donc c'est bien de prévoir un programme touristique au cas où. Comme ça, le voyage ne sera pas complètement raté. Et dans l'Ouest américain, ce n'est pas les lieux touristiques qui manquent. Le voyage est organisé par l'Association française d'astronomie. Le programme comporte la visite de deux observatoires mythiques, s'il en est, celui du mont Wilson et celui du mont Palomar, qui ne sont pas très loin de Los Angeles. On arrive donc à Los Angeles. Alors là, on commence par une visite classique, hein, Sunset Boulevard, avec le bistrot préféré de Johnny Hallyday. Hollywood Boulevard, vous savez, c'est là où se trouvent les empreintes des stars du cinéma qui sont dans le ciment des trottoirs. Il y a celle de Marilyn Monroe, celle de Sean Connery, Frank Sinatra. C'est à côté de l'endroit où se déroule la cérémonie des Oscars, le Dolby Theatre. Il y a même une boutique qui vend des Oscars. Vous savez, c'est ces petites statuettes en or, enfin dorées peut-être, qu'on remet aux artistes. Alors là, dans cette boutique, il y a l'Oscar de la meilleure babysitter, l'Oscar du meilleur pizzaiolo. Alors évidemment, moi bien sûr, je cherche l'Oscar du meilleur présentateur d'une émission de radio consacrée à l'astronomie. Et j'en ai pas trouvé. Donc le voyage commençait mal. Toujours à Los Angeles, visite de l'observatoire Griffith. Griffith. Cet observatoire s'appelle Griffith parce que c'est le nom du généreux donateur qui a fait cadeau à la ville de Los Angeles en 1896 d'un terrain. Un terrain de 1200 hectares. 1200 hectares. C'est devenu maintenant le parc Griffith où il y a des sentiers de randonnée, il y a de quoi faire. Hein. Griffith a aussi fait cadeau à la ville d'une somme d'argent qui est destinée à construire un observatoire afin de permettre au grand public de découvrir l'astronomie. Cet observatoire a été terminé en 1935 et complètement rénové en 2006. Il est situé sur une des collines qui domine Los Angeles. C'est près du mont Hollywood. Vous savez, Los Angeles, à l'ouest, vous avez l'océan Pacifique, puis une partie à peu près plate sur une dizaine de kilomètres où il y a la ville, et puis juste, on arrive sur des collines qui culminent à 300 mètres de haut. C'est là qu'est situé notre observatoire. C'est un lieu qui est assez prisé des touristes, mais aussi des Californiens, parce que depuis cet observatoire, on a une vue magnifique, une vue imprenable sur l'ensemble de la ville de Los Angeles. Alors, c'était un dimanche, tous les parkings étaient complets. Ces 10 dernières années, l'observatoire a accueilli 70 millions de visiteurs. L'observatoire a été conçu par un certain Georges Allais, dont on va reparler dans un instant. Il comporte trois coupoles. La première coupole, au centre, elle fait 25 mètres de diamètre. C'est un planétarium moderne, de 300 places, avec des sièges inclinables. Ça vous permet de regarder à l'intérieur de la coupole, sur le plafond de la coupole, de regarder les étoiles qui défilent, les planètes, les comètes, tout ça. C'est un des plus grands planétariums du monde, peut-être même le plus grand. Il y a des petites coupoles, enfin petites coupoles, ça fait quand même 6 ou 8 mètres de diamètre. Il y en a une qui abrite une lunette de 40 cm, qui est ouverte au grand public. Il y a des animateurs et on peut accueillir jusqu'à 600 visiteurs par nuit. Et puis, l'autre coupole abrite un appareil qui est destiné à l'observation du Soleil. Attention, cet observatoire est uniquement destiné au grand public. Ben oui, parce qu'il y a la pollution lumineuse de la ville de Los Angeles, qui est juste en dessous. Et cette pollution lumineuse, elle empêche toute observation scientifique. On trouve aussi, dans cet observatoire Griffith, des salles de conférences. Il y a un hall d'exposition immense à l'américaine, avec une représentation de toutes les planètes du système solaire pendues au plafond. Alors, Jupiter et Saturne, c'est des globes qui font à peu près 3 mètres de diamètre. Il y a aussi des panneaux qui expliquent la formation de l'univers, la formation des galaxies, la formation du système solaire. Enfin, toutes choses très intéressantes. À l'entrée, il y a un petit monument qui est à la gloire des astronomes du passé, à la gloire de Copernic, de Galilée, d'Herschel, Newton, Kepler. C'est une petite obélisque. L'observatoire Griffith, c'est aussi un endroit où on a tourné beaucoup de films. Le plus célèbre peut-être, La fureur de vivre, dans les années 50, avec James Dean. D'ailleurs, il y a un buste de James Dean à l'intérieur de l'observatoire. Il y a un James Bond, GoldenEye, qui était tourné en partie ici. Tant qu'on est à Los Angeles, on va aller visiter aussi un musée. Un musée qui est juste à côté du stade olympique. Du stade olympique où ont se déroulé les épreuves d'athlétisme des Jeux de 2028. Et dans ce musée, il y a une retraitée célèbre. C'est la navette Endeavour. Ah oui, cette navette, elle est dans un hangar spécialement construit pour elle. Un hangar immense, parce que quand on est à côté de cette navette, on s'aperçoit vraiment de sa dimension. Sa soute, la soute, pouvait contenir un autobus. Non, c'est vraiment un engin assez extraordinaire. Quand on le voit de près, c'est assez impressionnant. Et puis dans ce musée, il y a aussi des petites choses intéressantes comme une capsule Mercury, une capsule Gemini, une capsule Apollo. Alors la capsule Apollo, c'est celle qui a servi au rendez-vous avec le Soyouz. Et puis il y a aussi des maquettes de télescopes comme Spitzer, comme Hubble, et puis de sondes comme les sondes Voyager, les sondes Pioneer. Et bien sûr, il y a la sonde Cassini qui est à l'échelle 1. Et là, on s'aperçoit que cette sonde Cassini, c'est quand même un gros objet. Elle fait 4 ou 5 mètres de haut. Voilà, voilà pour ce musée qui est dédié essentiellement à l'espace. On va maintenant à l'observatoire du mont Wilson. C'est à une bonne heure de route de Los Angeles, une route de montagne qui serpente au milieu d'une forêt de pins. Elle nous emmène à 1700 mètres, là où est l'observatoire. C'est difficile de parler du mont Wilson sans parler de George Halley. Halley, H-A-L-E. Il est né en 1868. C'est un étudiant brillant qui se spécialise dans l'astrophysique solaire. C'est lui qui découvre que les taches solaires sont liées à des phénomènes magnétiques. Mais surtout, George Halley va fonder l'observatoire du mont Wilson et en être le directeur. Bon, c'est un brillant scientifique, mais il est aussi très doué pour trouver des financements pour ses projets. Oui. Au mont Wilson, la première chose qu'on voit, c'est une tour solaire qui s'élève à 30 mètres au-dessus des pins. Une tour solaire, c'est un télescope qui n'observe que le Soleil. Le tube est de grande dimension, ici 50 mètres, vertical, et bien sûr, il est immobile. Et la lumière du Soleil est envoyée à l'intérieur de ce tube par l'intermédiaire d'un jeu de miroirs qui sont situés au sommet de cette tour. À côté, il y a une coupole. Une coupole qui abrite un télescope de 1,50 m de diamètre. Il a été mis en service en 1908. À l'époque, c'est le plus grand du monde. Mais à peine en service, George Halley en veut un encore plus grand. Il veut un 100 pouces. Ça fait 2,50 m de diamètre. Ce télescope est installé en 1918 dans une autre coupole à côté, une coupole beaucoup plus grande. Son nom, c'est le Hooker. C'est le nom de celui qui a financé le miroir. Miroir, entre parenthèses, fabriqué en France par Saint-Gobain. Miroir qui pèse 4 tonnes et demie. Pendant 30 ans, ce télescope sera le plus grand du monde, jusqu'à la mise en service de celui du Mont Palomar. Ce télescope est historique, les amis. C'est avec lui qu'Edwin Hubble découvre une étoile variable dans ce qu'on appelle à l'époque une nébuleuse spirale. On ne sait pas trop ce que c'est à l'époque une nébuleuse spirale. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une relation entre la période de variation de luminosité d'une étoile et sa luminosité absolue. Hubble mesure avec le télescope Hooker sa luminosité apparente. Connaissant la luminosité absolue et la luminosité apparente d'une étoile, on sait calculer sa distance par rapport à la Terre. Hubble trouve 1 million d'années-lumière. C'est beaucoup, beaucoup plus que la valeur à laquelle tout le monde s'attendait. Hubble comprend que ces nébuleuses spiralées sont beaucoup trop loin pour appartenir à la Voie lactée. Hubble comprend que c'est une autre galaxie. En fait, c'est M31, la galaxie d'Andromède. Hubble vient de découvrir la véritable nature de ces nébuleuses spiralées. Ce sont des galaxies comme la Voie lactée. Ça se passe en 1923. Hubble continue à mesurer les distances d'autres galaxies avec ce télescope. Et il s'aperçoit que plus les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite de nous. En 1926, Hubble vient de découvrir l'expansion de l'univers. Et ça, c'est le fondement de toute la cosmologie moderne. Voyez, les amis, l'importance de ce télescope dans l'histoire de l'astronomie. Alors, aujourd'hui, il est comme en 1918. Alors, bien sûr, les opérateurs utilisent une souris pour commander ses mouvements, mais à côté de l'ordinateur, on a conservé le tableau de commande de l'époque avec ses petites manettes vitesse lente, vitesse rapide et ses boutons qui sont purement manuels. Il n'est plus utilisé par les professionnels maintenant à cause de la pollution lumineuse. Mais il sert encore pour des soirées d'observation privées. Et nous, on a pu observer avec le télescope Hubble, d'abord Saturne, Saturne qui apparaît dans l'oculaire grosse comme une cerise, avec les anneaux autour. Dans un télescope d'amateur, Saturne fait à peine 2 mm. On a pu observer des galaxies, des amas, des nébuleuses planétaires aussi. Malheureusement, le ciel était un peu turbulent. Ensuite, direction le Mont Palomar. C'est à une demi-journée de route de Los Angeles, au sud-est. C'est aussi à 1700 mètres, sur la montagne. Là, il y a une coupole qui abrite un télescope de 200 pouces. Ça fait 5 mètres de diamètre. Encore un instrument mythique. Et c'est encore Georges Allais qui a initié sa construction. 2,50 m, ça ne lui suffisait pas, il en voulait encore plus grand. Ce télescope a été mis en service en 1948. Et ça a été le plus grand du monde jusqu'aux années 80. Ça a été la référence, ce télescope du Mont Palomar. Il est toujours en service. On s'arrête au parking visiteur et là on prend un chemin qui nous emmène à travers la verdure sur 400 ou 500 mètres auprès d'une coupole. Une coupole d'un blanc immaculé. Une coupole immense. Elle culmine à 40 mètres de hauteur. Elle pèse 1000 tonnes. On rentre dans la coupole, on monte toute une série d'escaliers qui nous emmènent au niveau du plancher du télescope. Et là, on peut l'observer à travers une baie vitrée. Oh, il ressemble à celui du Pic du Midi avec sa monture en U. Mais il est beaucoup plus grand. Pic du Midi, c'est 2 mètres. Là, c'est 5 mètres de diamètre. Il pèse 570 tonnes. C'est impressionnant de voir cet engin et de penser qu'il y a eu bon nombre de découvertes qui ont été faites avec lui. Il y a beaucoup d'astronomes qui ont travaillé avec cet instrument. Et moi, je pense à Edwin Hubble, qui en 1950 était perché tout en haut du télescope. Télescope qui dérivait lentement vers l'ouest au cours de la nuit. Edwin Hubble qui manipule ses plaques photographiques pour enregistrer des images qui nécessitent des temps de pause de 30 minutes. Est-ce qu'il pensait, Edwin Hubble, est-ce qu'il imaginait seulement qu'un jour, voguant bien au-dessus de l'atmosphère terrestre, un télescope serait d'une puissance inimaginable pour lui. Un télescope permettrait d'apercevoir des galaxies par dizaines de milliards. Un télescope qui porterait son nom. Dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de l'éclipse américaine.
Nella prima parte del viaggio io guardavo la vita mia, c'era tutto piante, sassi e poi colline, sabbia ruvida. Insetti giravano intorno a me, il cielo era limpido, la terra secca, il sole caldo, l'aria piena di in questo deserto a cavallo del vento, attraverso la pioggia passai, nel deserto il tuo nome scorderai, perché non c'è nessuno che ti parlerà mai.
Si vous nous rejoignez sur 95.10, les amis, aujourd'hui notre émission d'astronomie est consacrée à l'éclipse totale de Soleil du 21 août. Dans la première partie de l'émission, on a parlé du programme d'accompagnement avec la visite des observatoires du mont Wilson et du mont Palomar. Place maintenant à l'éclipse. The Great American Solar Eclipse, la grande éclipse solaire américaine. Et oui, les Américains se sont carrément appropriés cette éclipse. Oui, parce que la bande de centralité, vous savez, c'est là où on peut voir la Lune recouvrir complètement le Soleil, là où il fait nuit en plein jour, là où l'éclipse est totale, et là où il faut être, bien sûr, eh bien, cette bande de centralité traversait complètement le territoire des États-Unis. Depuis l'Oregon, un état du nord-ouest, jusqu'à la Caroline du Sud, tout à fait à l'est. Et surtout, cette bande de centralité ne traversait qu'un seul pays, les États-Unis. Donc c'était bien une éclipse purement américaine. La bande de centralité matérialise la trace de l'ombre de la Lune sur la surface de la Terre. Cette ombre, on la voit très bien depuis sur des photos prises par des satellites ou par l'ISS. La taille de l'ombre conditionne la durée totale de l'éclipse. Celle du 21 août, elle était d'environ 80 km de diamètre. J'explique pourquoi. La Lune, autour de la Terre, comme la Terre autour du Soleil, décrivent des ellipses, ce qui fait que la distance entre les trois n'est jamais la même. Il y a plusieurs cas qui sont possibles. Premièrement, Lune proche, Terre loin du Soleil. Ça entraîne une ombre large et une durée importante de l'éclipse totale. Jusqu'à 7 minutes, c'est le maximum. Ça arrive, ce maximum, même pas une fois par siècle. Deuxièmement, Terre proche du Soleil et Lune loin de la Terre. L'ombre est petite et l'éclipse totale est courte. Exemple, 1913. Éclipse totale de Soleil en France, notamment à Saint-Germain-en-Laye. La bande de centralité mesurait 1,5 km de large. La durée de la totalité était de 3 secondes. Troisième point. Il peut arriver que la Lune soit encore un peu plus loin de la Terre, et que la Terre encore un peu plus près du Soleil. Alors la Lune ne recouvrira jamais complètement le Soleil. Dans le ciel, ça ressemble à un anneau. On appelle ça une éclipse annulaire. Et pour être complet, j'ajoute un quatrième point. Si vous êtes situé en dehors de la bande de centralité, l'éclipse est seulement partielle. La Lune ne recouvre jamais la totalité du Soleil, et plus on s'éloigne de cette bande de centralité, eh bien plus la portion de Soleil recouverte par la Lune est faible. Les éclipses de Soleil se produisent toujours à la nouvelle Lune. Or, la Lune, à chaque nouvelle Lune, passe entre la Terre et le Soleil. Alors pourquoi les éclipses sont si rares? On va faire un peu de géométrie dans l'espace. La Lune tourne autour de la Terre selon un plan qui est un peu incliné par rapport au plan décrit par la Terre autour du Soleil. Alors souvent, la plupart du temps, la Lune passe au-dessous ou au-dessus du Soleil, ce qui fait qu'on ne voit rien. Et pour qu'il y ait éclipse totale, il faut que la Lune, la Terre et le Soleil soient pile-poil sur le même axe. À quelle vitesse se déplace l'ombre de la Lune sur la surface de la Terre? Réponse. Réponse, ça dépend. Ça dépend de la latitude. L'ombre de la Lune se déplace d'ouest en ouest à 3600 km/h. La Terre tourne sur elle-même d'ouest en est aussi, et il faut soustraire de 3600 km/h la vitesse de rotation de la Terre, qui est de zéro au pôle et qui est maximum à l'équateur, c'est-à-dire 40 000 km divisé par 24, 1600 km/h. La vitesse de l'ombre est donc toujours comprise entre 3600 km/h et 1900 km/h. Pour celle du 21 août, elle était de 2600 km/h. Lorsque la Lune et le Soleil sont alignés, leur pouvoir d'attraction est maximal, bien évidemment. À tel point que ça attire des millions de personnes dans cette étroite bande de centralité. Et c'est bien ce qui inquiétait les autorités américaines. Et oui, par exemple, en Oregon, la population était de 4 millions d'habitants. Et puis on attendait 1 million de visiteurs le 21 août. Et ça pose quand même un certain nombre de problèmes. D'abord, des problèmes d'hébergement et de ravitaillement. Ensuite, on pouvait s'attendre à des embouteillages monstres, avec des problèmes de secours médicaux ou d'incendie coincés au milieu des voitures. Encore plus grave, la saturation des réseaux téléphoniques et Internet. Alors ça pour un Américain, ça c'est la catastrophe absolue. Le dimanche 20 août, veille de l'éclipse, nous arrivons à Salem. Salem, c'est une ville qui est située en plein milieu de la bande de centralité. Salem, c'est la capitale fédérale de l'État d'Oregon. Mais la plus grosse ville, c'est Portland. À la télé, depuis plus d'une semaine, on parle de l'éclipse, avec des schémas pour expliquer les phénomènes, et puis aussi des consignes, hein, mettez des lunettes, protégez-vous la vue, etc. Le 21, jour de l'éclipse, on part de bonne heure de l'hôtel en bus pour effectuer un petit trajet qui va nous amener directement au lieu d'observation qui a été choisi par le responsable du groupe, l'ami Edgar, tout ça grâce à Google Earth. Sur le trajet, le trafic a l'air tout à fait normal, il n'y a pas de bouchons. Bon. On arrive sur site à 7h30, début de l'éclipse vers 9h30. Le site, c'est une grande clairière au milieu des pins, grande comme deux ou trois terrains de foot. Il y a déjà au moins 200 personnes qui ont passé la nuit là, dans des camping-cars. Il y a beaucoup de camping-cars. Ça ressemble un peu le Tour de France dans l'école. Le soleil est là. Il est visible entre les branches des pins. Mais on sait que tout à l'heure, il sera bien sûr au-dessus de la cime de ces arbres. Il n'y a pas un seul nuage. Et ça, alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. En attendant le premier contact, ah oui, le premier contact, c'est quand la Lune tangente le bord du Soleil. C'est le tout début de l'éclipse. En attendant, ben, chacun prépare son matériel. Il y a des télescopes, il y a des jumelles sur leur trépied, des appareils photo, tout ça muni de filtres qui vont bien. Il y a aussi, évidemment, tout le monde sort les lunettes d'éclipse, et puis il y en a qui prennent des crayons et du papier pour dessiner la couronne à la main. On discute, on va d'un instrument à l'autre. On a la chance d'avoir avec nous un astronome professionnel qui travaille à l'observatoire de Meudon et qui est spécialiste de la couronne solaire. C'est Milan Maksimović. Bon, il est là parce que le lendemain, il y a à Portland le congrès annuel des astrophysiciens spécialistes du Soleil. Bien évidemment, toute coïncidence entre ces deux événements ne saurait en aucun cas être considérée comme fortuite. Milan a apporté des simulations prévisionnelles de la forme de la couronne. Elles ont été réalisées quelques jours avant en utilisant les dernières données concernant le magnétisme du Soleil. Alors on va voir si les prévisions vont être conformes à la réalité. Edgar, lui, a calculé l'horaire à la seconde près. Première annonce, contact dans une minute, 30 secondes. Il n'y a rien dans le ciel qui trahit la présence de la Lune, rien. Quelqu'un égrène les dernières secondes. 4, 3, 2, 1, top. On regarde aux jumelles, bah, apparemment rien n'a changé sur le Soleil. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de calcul ? Il faut attendre une trentaine de secondes pour apercevoir un tout petit méplat noir en haut et à droite du Soleil. Le calcul était bon. Et c'est parti pour assister, autant admiratif qu'impuissant, au grand ballet des objets célestes, à la marche inexorable de l'univers, les amis. Au début, il ne se passe pas grand-chose, à part cette découpe noire, ronde, dans le Soleil qui grossit de plus en plus. Je suis surpris par l'absence de vent. Je me souviens d'une éclipse en Sibérie où ça soufflait tellement fort qu'il fallait tenir les trépieds des appareils photo. Aujourd'hui, pas un souffle de vent. Pas un nuage non plus. On observe aussi l'éclipse avec une passoire, si. Oui, évidemment, il ne faut pas mettre l'œil derrière les trous de la passoire, hein. Non, on tient la passoire de la main droite et un carton blanc dans la main gauche. Et on regarde l'ombre de la passoire sur le carton. Et tous les petits trous, on s'aperçoit que ça montre l'image du soleil éclipsé. Ça s'appelle une sténopée. Les choses commencent vraiment à changer lorsque la Lune atteint le milieu du soleil. Déjà, la température a chuté. Elle va baisser 10 degrés en tout. La lumière se modifie. Alors ça, c'est très difficile à décrire. Hein. C'est très étrange. C'est un peu comme lorsque le soleil se lève un matin juste après un orage. Ça évoque un peu, je ne sais pas moi, une atmosphère de fin de monde. Petit à petit, le silence s'installe. Les oiseaux, il y a longtemps qu'on ne les entend plus. Nous, on chuchote entre nous. Le soleil ressemble à un croissant qui devient de plus en plus fin. Tout va de plus en plus vite. Quelques secondes avant que le disque lunaire masque complètement le soleil, on peut enlever les protections, les appareils, et on regarde l'œil nu. Le dernier rayon de soleil s'éteint, et d'un seul coup, la couronne apparaît. Magique. Magique. Cette couronne, on ne la voit jamais parce qu'elle brille 100 000 fois moins que le soleil. Mais là, le soleil est masqué, elle est bien visible. Dans le ciel, on voit ce soleil qui est noir, avec tout autour cette lumière qui brille dans toute sa splendeur. On observe le spectacle. Avec des jumelles, on peut distinguer quelques protubérances qui apparaissent en rose, et on voit le détail de cette couronne, qui, pour cette éclipse, est loin d'être homogène. On perçoit des filaments qui sont perpendiculaires, et trois zones qui sont nettement plus intenses. Ça ressemble assez bien aux prévisions de Milan. Vous savez, les spécialistes des éclipses reconnaissent l'année de l'éclipse seulement en regardant les photos de la couronne. Pendant 2 minutes 7 secondes, le temps semble arrêté, semble figé. Dans le ciel qui n'est pas très noir, bleu foncé, on voit une étoile qui brille. Non, en fait, ce n'est pas une étoile, c'est Vénus. 2 minutes 7 secondes, ça passe quand même très vite. Et déjà, les premiers rayons du soleil réapparaissent à l'opposé. Il faut remettre les lunettes, et regarder encore un peu le spectacle, mais c'est plus pareil. Et la Lune poursuit son chemin. Oh, elle ne s'est rendue compte de rien, la Lune. La Lune poursuit son chemin un peu dans l'indifférence générale. 2 minutes 7 secondes, un spectacle unique, rare, mais qui marque à jamais tous ceux qui peuvent l'observer, croyez-moi. Et moi, je pense toujours dans ces moments-là aux premiers hommes qui étaient témoins d'un tel événement. C'était il y a 20 000, 50 000 ans, je ne sais pas. Eux, personne ne les avait prévenus. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas. Ils voyaient leur soleil qui disparaissait petit à petit. Est-ce qu'il allait réapparaître? De là à invoquer une puissance divine qui enverrait un animal dévorer le soleil. Voilà, les amis. C'était la Great American Solar Eclipse. La prochaine éclipse totale est en juillet 2019. Là, il faudra aller au Chili. La prochaine en Europe, celle-là, il ne faudra pas la rater. C'est en août 2026. La bande de centralité va traverser tout le nord de l'Espagne. Elle va passer entre Bilbao et San Sébastien. Voilà notre éclipse, les amis. Merci de votre fidélité. À bientôt.
À la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.